Chérie Bibi et Cécilie, chapitre 13. Quelques autres transes. Chérie Bibi s'étant levée, pria la ficelle, avec un soupir, d'aller voir s'il ne restait plus rien à faire. La ficelle s'en fut prendre la lampe sur la cheminée et retourna au champ de bataille, prête à porter le dernier coup au vaincu s'il était nécessaire. Mais la bouche ouverte, les yeux chavirés, le souffle éteint, les trois brigands avaient bien cessé de vivre. La ficelle l'assura à chérie Bibi qui détournait la tête. « Mon petit la ficelle, tu as été bien brave. Va voir encore les deux autres là-haut, » pria chérie Bibi qui avait de l'ordre, mais à qui ses besognes secondaires avaient toujours répugné. Bientôt la voix de la ficelle se faisait entendre. « Ils sont tous morts !» Et chérie Bibi lui répondait « La société en sera bien débarrassée. » Ainsi se décernait-il un brevet de civisme destiné au besoin à calmer de problématiques remords. « En tout cas, ils ne parleront plus !» exprima la ficelle, qui décidément détestait les bavards. « Cela vaut mieux ainsi, même s'ils ignoraient votre secret, car ils connaissaient le mien. » « Regrettons seulement, monsieur le marquis, que ce vilain canaque ne figure point au tableau. » Chérie Bibi, qui avait rejoint son lieutenant au premier étage, ne daigna même point sourire à l'audace cynique de ce terme cinégétique. Il ne pensait plus qu'à s'en aller. « Allons-nous-en, la ficelle, nous bavarderons demain matin. Nous n'avons plus rien à faire ici. » « J'ai connu un temps où monsieur le marquis eût été plus curieux. » observa le jeune homme. « Que veux-tu dire ? » ?»« Je veux dire que rien ne nous bouscule en ce moment, puisque la comtesse ne nous attend plus au feuillage, la pauvre femme, que nous avons tout loisir d'aller voir là-haut d'où vient ce beau sang rouge qui a coulé en bas, et aussi, si par hasard, le canaque ne serait point réfugié dans les combles de l'établissement. « Tu as peut-être raison. » « Mais je suis bien là !» soupira chérie Bibi. « Oh, monsieur le marquis est encore solide !» objecta la ficelle sur le ton de la plus basse flatterie. « Et je suis sûre qu'avec un bon coup d'épaule, il n'aurait pas besoin de s'y reprendre à deux fois pour faire sauter cette porte qui conduit aux appartements supérieurs. » « La ficelle, je crains quelques pièges. » « Monsieur le marquis, après vous avoir vu tout à l'heure à l'ouvrage, moi je ne crains qu'une chose, c'est que nous laissions là-haut sans secours une malheureuse femme qui peut-être se meurt à cause de vous. » « Ton langage prouve ton bon cœur, la ficelle, mais je ne saurais oublier que c'est cette femme qui, par son adroit mensonge, m'a attiré ici. » « Monsieur, je ne le crois pas, elle vous aimait, c'est elle qui aura été trompée. » Le canaque devait savoir qu'elle avait de la sympathie pour vous. Il s'est dit, en lui racontant que le testament est dans le secrétaire du restaurant du port, elle le dira au marquis qui viendra l'y chercher. Pour moi, voilà toute l'histoire. Ma foi, c'est possible. Ce qui est encore possible, c'est que la pauvre femme, ayant appris au dernier moment que le testament était ailleurs, et voyant qu'on s'était moqué d'elle, a redouté le guet-apens pour vous. Elle sera accourue, décidée à faire manquer le coup, et le canaque l'aura exécuté. Écoutez, monsieur le marquis, écoutez, on a encore soupiré là-haut. Le sang ne coule plus, mais on a encore soupiré. Elle n'est peut-être point morte. Enfin, il faut se décider, insista la ficelle, tout étonnée des hésitations de son maître. Évidemment, la conversation à côté de ces cadavres n'est point gaie, exprima chérie Bibi. Et quoi que nous fassions, faisons vite pour quitter cette maison le plus tôt possible. Allons, un bon coup d'épaule. Nous arriverons peut-être auprès de cette malheureuse assez à temps pour qu'elle nous dise, si elle le sait vraiment, cette fois, où se trouve réellement le testament. Allons-y donc. Mais rappelle-toi la ficelle. Que j'ai eu bien peu de chance jusqu'à présent avec les gens que l'on assassine et auprès des cadavres desquels on me trouve toujours quand arrivent les gendarmes.
« Oh, monsieur, écoutez, écoutez !»
Le doigt tendu, la ficelle montrait le plafond. On entendait encore les douloureux soupirs, et le sang se remit à couler. « Adieu va !» s'écria monsieur le marquis du Touchet, comme font les marins qui risquent quelque désespérée manœuvre au milieu de la tempête, et il donna son coup d'épaule. La porte sauta. En deux bonds, les deux gars furent à l'étage supérieur. La ficelle ouvrit une porte sur laquelle la clé avait été tournée de l'extérieur, et au rayon de la lune, ils virent distinctement sur le plancher un long corps étendu. Une plainte légère, un souffle venait de ce corps. « Ta lanterne !» commanda Chéri Bibi. L'autre dut redescendre la chercher. Quand il remonta, il trouva son maître penché et soutenant une tête de femme. Et c'était bien la comtesse qui agonisait. Elle avait la gorge et la poitrine trouées de coups de couteau. « Ah, la pauvre! La pauvre !» gémissait Chéri Bibi. « Qui est-ce qui a eu le cœur de la ranger d'une façon pareille? Si c'est le canac, je la vengerai! Je la vengerai !» La ficelle, avec la lanterne, éclairait l'affreuse scène. Tout ici était dans un désordre terrible. La comtesse avait certainement essayé de se défendre, et plus tard, quand on l'avait crue morte et qu'on l'avait laissée dans cette chambre, elle était parvenue à se traîner jusqu'à ce bureau, où elle avait pu encore, d'une main ensanglantée et qui avait laissé des traces partout, chercher une feuille sur laquelle elle avait écrit ses derniers mots pour Chéri Bibi, avec son sang, le dernier souvenir qu'elle lui laissait d'elle, en souhaitant de toutes les dernières forces de son âme expirante qu'il lui parvinsse pour qu'il ne crût point à sa trahison. La ficelle, qui avait découvert une cuvette et de l'eau, avait mouillé une serviette, et maintenant il la roulait autour de la tête de la malheureuse, qui ouvrit les yeux. La mort les vitrifiait déjà. Cependant la comtesse dut reconnaître Chéri Bibi, car sous la lèvre exsangue glissa le soupçon d'un triste sourire. Se rappelant alors que cette femme l'avait sauvée autrefois, l'avait aimée, et qu'elle n'avait jamais obtenu de lui la moindre tendresse, Chéri Bibi se pencha vers elle, et sur le front lui donna un baiser. Le visage de la malheureuse parut rayonner. Ses yeux s'ouvrirent plus grands et retrouvèrent un suprême éclat. Ses lèvres remuèrent et prononcèrent un nom d'abord. « Chéri Bibi !» Et puis, après un silence et un dernier effort, un autre nom. « Jim !» Alors, pensant à la dernière syllabe du billet sanglant, « Maître Régime !» s'écria Chéri Bibi. « Le testament est chez Maître Régime. La comtesse, je te le jure, tu seras bien vengée. » Mais elle ne pouvait plus l'entendre. Elle était morte. Après être montée jusque dans les combles, avoir visité toutes les pièces et constaté qu'ils ne laissaient derrière eux que des cadavres, Chéri Bibi et la ficelle entr'ouvrirent avec précaution la porte du cabaret, fermée à l'intérieur, qui donnait sur le quai sous les arcades. Personne dehors. La pluie avait recommencé à tomber, leur promettant la protection de son voile propice. Ils sortirent. Trois quarts d'heure plus tard, ils étaient rentrés, sans autre mauvaise aventure, à la villa de la Falaise, après s'être dépouillés de leur défroque qu'ils cachèrent dans un trou recouvert de pierres où ils savaient pouvoir venir les retirer, car ils prévoyaient qu'ils en auraient encore besoin. Mais ils avaient assez travaillé cette nuit-là et bien mérité quelque repos. Monsieur le marquis, pour sa part, dormit jusqu'à 11 heures, heure à laquelle il sonna son valet de chambre. Il apprit de celui-ci qu'on était venu chercher dans la matinée Madame la marquise, de la part de la marquise Douairière, qui avait eu une nouvelle crise. Le docteur Walter se trouvait auprès d'elle. « Vous en êtes sûr ?» interrogea Chéri Bibi, frappé de tant d'audace. « Vous êtes sûr que le docteur Walter est au château ?»« J'en suis sûr, monsieur le marquis, c'est moi-même qui suis allé le chercher. »« Bien, laissez-moi m'habiller. »« Monsieur le marquis ne veut pas que je l'aide ?» « Non, fichez-moi le camp !» Chéri Bibi, pour des raisons à lui connues, s'habillait toujours tout seul, et n'avait nul besoin de son domestique pour passer sa chemise. 10 minutes plus tard, il descendait dans le vestibule et était déjà prêt à sortir quand 2 gentlemen, mal rasés, se présentèrent chez lui, le chapeau à la main. « Monsieur le marquis du Touchet, s'il vous plaît. »«
C'est moi, que me voulez-vous ? » ?»«
Nous sommes des agents de la sûreté, monsieur le marquis, et nous avons mission de ne pas vous laisser sortir de chez vous. »
Chéri Bibi, très pâle, avait reculé jusqu'au fond du vestibule.
« Qui vous a donné cette mission ? »
eut-il encore la force d'articuler, en domptant, par un prodige de volonté, l'émotion terrible qui l'étouffait.
« Monsieur Costaud lui-même, monsieur le marquis, il va arriver à l'instant, du reste, et vous donnera tous les renseignements désirables. »«
C'est bien, messieurs, j'entre dans mon salon. »
Et il disparut, leur fermant la porte au nez. Dans le salon, il s'effondra, râlant. « Je suis perdu !» Cependant, Costaud allait venir, il n'avait pas une minute à perdre. La fenêtre du salon était ouverte, et il songea qu'il pouvait se sauver, tenter de s'échapper à travers les champs. Il bondit jusque-là, et déjà il s'apprêtait à enjamber la fenêtre, quand une figure se dressa devant lui, venant du jardin.
« Bonjour, monsieur le marquis !»
C'était Costaud.
Chapitre 14. Encore un petit effort. Chéri Bibi n'était pas encore revenu de son effroi, que l'inspecteur Costaud, qui était allé le rejoindre dans le salon, s'excusait de la liberté grande qu'il avait prise de le faire surveiller d'aussi près.
« Monsieur le marquis, expliqua cet honnête policier, je n'ai point voulu que vous sortiez ce matin de chez vous sans être averti du danger qui vous menace. Un crime, ou plutôt une série de crimes, viennent d'être découverts à Dieppe.
Chéri Bibi est revenu.
Le marquis leva vers le brave Costaud une figure d'une pâleur qui faisait pitié, et l'agent ne manqua point de mettre sur le compte de la sinistre nouvelle qu'il apportait un émoi dont il était bien loin de soupçonner la véritable cause. Le marquis, cependant, après avoir soupiré profondément, semblait se remettre d'une alarme si chaude. Costaud l'encourageait à se mieux porter, en lui promettant, pour le défendre, le concours dévoué de ses agents. Costaud rayonnait littéralement. Une jubilation excessive émanait de sa physionomie, à l'ordinaire un peu froide. Mais l'événement lui donnait trop raison pour qu'on lui en voulût de ne point cacher plus décemment les joies du triomphe. Il avait toujours dit que Chéri Bibi n'était point mort, et que l'illustre bandit ferait encore parler de lui. Or, l'assassin de M. Bourrelier et du vieux marquis du Touchet venait de reparaître sur la scène de ses premiers exploits.
Quelle imprudence ! Ne put s'empêcher de faire observer le mari de Cécilie.
Il ne savait donc point, M. Costaud, que vous étiez là ?
C'est un détail,
répondit sans se troubler le joyeux Costaud.
C'est un détail qui ne l'a point arrêté quand il a su qu'il aurait le plaisir de vous y rencontrer. »
Le marquis regarda Costaud de travers, redoutant qu'il ne raillât, mais l'inspecteur parlait on ne peut plus sérieusement. Du reste, il s'expliqua tout de suite.
« Car c'est vous, monsieur le marquis, qui êtes le plus menacé en tout ceci. »
Il n'est point douteux que les misérables sont revenus dans ces parages dans le principal désir de vous tirer à nouveau quelques petits millions. La bande à laquelle vous avez eu affaire à bord du Bayard n'est point si exterminée qu'on avait bien voulu nous l'annoncer.
« Et vous êtes sûr que Chéri Bibi est avec eux ?»«
Oui, monsieur le marquis, il avait amené avec lui un certain petit bon Dieu et ses autres fleurs de bagne. » Gueule de bois, va-nu-pied, le rouquin et boule de gomme. Rassurez-vous quant à ces derniers, ils sont morts. On les a tués cette nuit.
Tués ? Et qui donc a accompli cet exploit, monsieur Costaud ?
À mon avis, c'est Chéri Bibi lui-même. On a retrouvé leurs cadavres dans les salles du petit restaurant du port, que Petit Bon Dieu avait loué sous un faux nom, naturellement.
C'est là, sans doute, qu'ils devaient perpétrer le coup qui vous ramènerait dans leur filet, car nous avons trouvé sur eux des papiers où il était question d'un guet-apens dirigé contre vous, et une pancarte, au fond d'un meuble, couverte d'une inscription bizarre, et à tout prendre, menaçante, par laquelle petit bon Dieu annonçait qu'il avait l'honneur de vous présenter ses hommages.
Voyez-vous cela?
C'est comme j'ai l'honneur de vous le dire, monsieur le marquis. Seulement, au dernier moment, ils n'ont pas dû s'entendre, et ils ont voulu se débarrasser de Chéri Bibi, qu'ils jugeaient, sans doute, trop tyrannique, et qui devait, bien entendu, se tailler la part du lion. Ils se sont réunis pour l'exterminer. Bien mal leur en a pris. Chéri Bibi en a fait littéralement de la bouillie. Il faudra que vous voyiez cela, monsieur le marquis. C'est du bel ouvrage. Le bandit n'a rien perdu de son entrain.
Mais rien ne prouve dans tout cela l'intervention de Chéri Bibi.
Si, monsieur le marquis. D'abord, il y a ce massacre qui porte bien sa marque, comme je me fais fort de le prouver au parquet. Et enfin, pour que nul n'en ignore, ce petit bout de papier ensanglanté et malheureusement arraché, sur lequel vous voyez ces mots tracés avec du sang. « Prends garde, Chéri Bibi ». Cet avertissement a dû être écrit par un complice qui se trouvait à l'étage supérieur et que les autres ont à moitié assassiné, car il a disparu en laissant au second et au premier d'effroyables traces de sang. C'est peut-être Chéri Bibi lui-même qui l'a emporté, mourant après sa victoire, ne voulant pas laisser un si bon camarade entre les mains de la justice.
« Tout cela est bien affreux !» soupira le marquis du Touchet.
« Si je puis vous donner mon avis, monsieur le marquis, tout cela est surtout redoutable. Méfiez-vous. Gardez-vous jusqu'à ce que nous ayons mis la main sur ce Chéri Bibi, qui ne doit rêver maintenant qu'à une chose, s'emparer d'un otage de la valeur de monsieur le marquis. Mes hommes ne vous quitteront plus. »
Chéri Bibi fit la grimace, et comme il était avant tout bon époux et bon père, il dit
« Mon Dieu, monsieur Costaud, je ne puis que vous remercier d'un zèle aussi louable. Cependant, pour ne point effrayer ma famille, je désirerais que cette surveillance se fît d'assez loin et avec une certaine discrétion. Avant tout, je désire que la marquise ne puisse soupçonner que le retour de ce Chéri Bibi de malheur me fait courir le moindre danger. Je la connais, la chère femme, elle en ferait une maladie.
Comptez sur mon adresse, monsieur le marquis.
J'y compte, monsieur Costaud. »
Costaud prit congé, car cette épouvantable affaire allait lui donner bien de l'ouvrage, et Chéri Bibi se dirigea illico vers le petit pavillon où le bon Laficelle dormait encore à point fermé. Le bruit des crimes du restaurant du port s'était répandu avec une grande rapidité, et on peut dire que dès midi, toute la ville fut sur les quais. Un nom volait de bouche en bouche.
« Chéri Bibi ! Chéri Bibi ! Chéri Bibi était revenu !»
Et pour son premier coup de bienvenue, il en avait tué 4.
Quel homme ! Lui que l'on croyait mort !
On racontait qu'il s'était sauvé sur les toits, qu'il était déguisé en gendarme. Enfin, on inventait 1000 histoires stupides. Les gens se taisaient brusquement, regardant autour d'eux tous les visages avec sournoiserie. On le croyait loin, et il était peut-être là, tout prêt, à écouter de ses deux oreilles, et bien capable de se venger sur le champ de ceux qui étaient assez imprudents pour ne point retenir leur langue. Il y avait foule sous les arcades, à la poissonnerie, et une cohue indescriptible, malgré le service d'ordre, devant le restaurant du port. Tout à coup, l'intérêt et la curiosité malsaine de cette multitude semblèrent se transporter au-delà du pont, à cet endroit du quai où commence le faubourg du Paulet. Il y eut un mouvement général qui fit que l'on s'écrasa au bas de la côte de Dieppe. C'est que, dans ce coin du port, on venait de faire, à marée basse, une bien sinistre trouvaille. Des matelots avaient retiré de la vase une jambe et un buste
de femme. Les affreux débris furent transportés à la morgue au milieu d'un concert de malédictions, et l'on apprit bientôt que c'étaient là les débris d'un crime encore tout frais et remontant seulement à quelques heures. Toujours chéri Bibi. La figure du monstre grandit encore en horreur, et beaucoup de ceux qui étaient là rentrèrent se barricader chez eux en frissonnant. Les armuriers firent des affaires d'or, car chacun voulait être armé. On s'arracha les journaux locaux de la plage qui racontaient la sanglante aventure à peu près telle que M. Costeau l'avait conçue. L'inspecteur, interviewé, demandait à la population de garder son sang-froid et de venir lui apporter tous les renseignements qu'elle pouvait croire susceptibles d'aider la police. M. Costeau laissait entendre qu'il était déjà sur la trace du grand criminel et qu'il ne tarderait point à mettre la main dessus, pour la troisième fois. Les journaux du soir arrivèrent de la capitale avec des manchettes énormes où les quatre syllabes éclatantes de « Chéri Bibi » se détachaient comme il convient. Les boutiquiers de la Grand-Rue fermèrent tôt leurs portes. Sur les petites plages environnantes, on prit également ses précautions. À Puy et à Pourville, on ne s'attarda point dans les rues ni les chemins. Parmi les plus craintifs, nous devons citer Monsieur et Madame Régime, en villégiature à Pourville. Ils avaient été surpris par l'affreuse nouvelle à Dieppe même, qu'ils traversaient dans l'intention d'aller faire une petite visite de politesse au marquis et à la marquise du Touchet, qu'ils n'avaient point vu depuis quelque temps. Aussitôt qu'ils furent au courant de la terrible réapparition de Chéri Bibi, ils arrêtèrent net leur petit voyage. On disait le marquis du Touchet menacé plus que personne par son ancien geôlier du Bayard, et il n'était certainement point prudent, comme le faisait observer en tremblant la bonne Madame Régime, d'aller se jeter dans la gueule du loup. « Tu as raison, Nathalie, » acquiesça Maître Régime. « Rentrons chez nous. Ce sont des affaires qui ne nous regardent point. Du reste, je ne serai d'aucun secours au marquis, et on le dit bien gardé. » Ils reprirent le chemin de Pourville et regagnèrent leur villa des Mouettes qu'ils avaient louée à ses bons marchés en fin de saison et aussi pour la raison qu'elle était assez isolée, non loin de la falaise et dans un petit bois. Le précédent locataire n'était autre que ce monsieur de Pont-Marie qui ne l'avait point habité et qui avait brusquement disparu du pays après s'être à peu près ruiné. Quand, le soir venu, ils se virent seuls avec leur vieille domestique dans cette maison trop grande pour eux, ils regrettèrent leur isolement en ce temps de gloire renaissante de Chéri Bibi. Le revolver au poing, un vieux revolver de famille tout rouillé que l'on ne chargeait jamais de peur qu'il n'éclatât, Maître Régime, suivi de son épouse tremblante, fit le tour de la propriété et s'assura par lui-même que toutes les portes étaient bien fermées. Puis ils soupèrent, comme on dit là-bas, pour désigner le repas de 8 heures. Ils ne parlèrent que des anciens et des nouveaux crimes de Chéri Bibi, mais à voix basse, comme si le bandit était caché quelque part, tout près de là, et pouvait les entendre. Au dessert, cette conversation les avait réduits au plus douloureux effroi, et ils furent d'accord pour quitter Pourville et Dieppe dès le lendemain matin. Ils montèrent se coucher, mais ayant soufflé leurs bougies, ils ne purent dormir. Il leur semblait à chaque instant entendre des bruits qui n'étaient pas naturels. C'était cependant le souffle du vent dans la ramure, une branche qui craquait au dehors, un meuble vermoulu qui gémissait au dedans. « Allume !» supplia Nathalie. La bougie fut allumée et soufflée plusieurs fois. Enfin, vers minuit, ils s'assoupirent, au fond des ténèbres et sous les couvertures. Soudain, ils rouvrirent en même temps les yeux. Il leur semblait que la bougie s'était allumée, cette fois toute seule. Il y avait de la lumière dans la chambre, mais une lumière bizarre, un fuseau de clarté qui se promenait sur les murs et sur les meubles, et qui vint, d'un coup, les illuminait en pleine figure, les aveuglait, cependant qu'ils poussaient un gémissement désespéré et qu'ils se mouraient de peur. Deux hommes avaient pénétré dans la chambre. Maître Régime, sous son bonnet de coton, dressa une tête épouvantée en râlant « Grâce, qui est là ?» Quant à sa tremblante moitié, elle se rejeta sous les draps sans attendre la réponse. À la question de Maître Régime, une voix répondit « C'est moi, chérie Bibi. » Aussitôt, on entendit au fond du lit un immense gémissement. La tête de Maître Régime retomba sur le bois de lit avec un bruit sourd et la pointe de son bonnet de coton se dressa en l'air, comme si les choses elles-mêmes prenaient conscience de l'horreur de la situation. Cependant, Chéri Bibi essayait de rassurer ces êtres timorés. Il disait « Remettez-vous, Maître Régime, et vous aussi, madame. Nous ne vous tuerons que si c'est absolument nécessaire. » Nouveau sursaut du bonnet de coton, nouveau gémissement sous les couvertures. « Nous ne sommes point venus pour vous faire du mal, mais pour vous demander un petit service. Nous savons que votre ami, le docteur Walter, a remis entre vos mains, Maître Régime, un pli scellé qui n'est autre que son testament. Est-ce exact ?» Le bonnet de coton fait un signe que l'on peut traduire par l'affirmative. « Alors, donnez-nous ce testament. » et nous serons quittes. » Chéri Bibi n'avait pas terminé sa phrase que la figure effarée de la bonne Madame Régime sortait de sous les couvertures et criait « Donne-lui le testament, Polydore !» Maître Régime ne résistait jamais à sa femme quand elle lui donnait son doux nom de baptême. Et ce n'est point cette fois que Maître Régime devait manquer à ses habitudes. Il allongea une main tremblante au-dessus de la table de nuit et parvint, non sans difficulté, à en faire glisser le tiroir dans lequel se trouvait son trousseau de clés. Mais, comme dans ce même tiroir se trouvait également le vieux revolver de la famille, Chéri Bibi bondit sur le malheureux et le saisit à la gorge. Madame Régime poussa un hurlement d'épouvante pendant que Polydore déjà râlait. « Ah, tu as voulu prendre ton revolver, tu vas mourir !» annonça Chéri Bibi. « Pitié, mon bon monsieur, il n'est point chargé !» proclama la délirante Madame Régime, joignant les mains. Chéri Bibi lâcha Polydore et le bonnet de coton retomba, flasque, sur le bord du lit. Le bonnet de coton, après cette algarade, était incapable de prononcer un mot. Ce fut Nathalie qui prit la direction des opérations. « Mon bon monsieur, le trousseau de clés est dans le tiroir de la table de nuit. » Et elle montrait aux deux ombres masquées qui se dressaient devant elle. « Là, là, et voici la clé, celle qui ouvre le meuble, là, en face de vous. Vous trouverez le testament tout de suite, sur la première planche. On a écrit dessus « Testament du docteur Walter ». Vous trouverez aussi de l'argent, 1500 francs environ, et de la monnaie. Prenez tout, nous vous donnons tout. » « Oui, tout, » fit le bonnet de coton qui revenait à la vie. « Nous prenez-vous pour des voleurs ?» demanda Chéri Bibi. « Non, non !» proclamèrent ensemble Polydore et Nathalie. « Eh bien, gardez votre argent, nous vous en faisons cadeau. » Et Chéri Bibi se dirigea avec le trousseau de clés vers le meuble, qu'il ouvrit, et dans lequel il trouva en effet très facilement le testament. À la lueur de sa lanterne sourde, il en examina les cachets, puis il le fit disparaître dans sa poche. « Et maintenant, expliqua-t-il, nous n'avons plus qu'à vous dire une chose, chers monsieur et dame, c'est que si jamais vous parlez de notre petite visite, votre compte est bon. Un mot et vous êtes mort. Foi de Chéri Bibi. Vous me comprenez bien, n'est-ce pas? On ne vous a pas pris le testament.
Non, non, nous dirons que nous l'avons perdu, promit Nathalie.
Si vous dites que vous l'avez perdu, 2 heures plus tard, vous êtes mort.
Ah, mon Dieu, eh bien, nous ne dirons rien du tout.
Cela vaudra mieux pour tout le monde, conclut Chéri Bibi.
Adieu, monsieur. Adieu, madame.
Nous ne vous verrons plus que pour vous couper la langue ou la gorge, à votre choix.
Messieurs, nous vous donnons notre parole d'honneur,
assura le bonnet de coton. Les deux ombres saluèrent et disparurent le plus tranquillement et le plus naturellement du monde par les portes dont elles avaient toutes les clés. Penchés derrière les persiennes de leurs fenêtres, Polydore et Nathalie, appuyés l'un sur l'autre, dans une étreinte de suprême désespoir, les regardèrent s'enfoncer dans la nuit et gagner le chemin de la grève.
« Eh bien, il est moins méchant qu'on le dit !» apprécia Madame Régime.
« Pourquoi, chéri Bibi, a-t-il besoin du testament du docteur Walter ?» réfléchit tout haut Maître Régime.
« Si tu veux me faire plaisir, Polydore, tu ne le demanderas à personne. »
« À personne, » jura Maître Régime. Et sur l'instigation de Nathalie, ils tombèrent à genoux, comme au temps où ils étaient petits-enfants, pour remercier le ciel de les avoir sauvés des griffes du terrible chéri Bibi, sans qu'il leur en coûtât autre chose qu'un manque au devoir professionnel. Dehors, la nuit était tantôt sombre, tantôt claire, suivant que les gros nuages qui roulaient au ciel masquaient ou démasquaient la lune. Chéri Bibi et la ficelle avançaient avec prudence. Ils arrivèrent sans encombre à la grève. La marée était basse. Ils regagnaient Dieppe et puis par les galets, évitant ainsi les routes où ils pouvaient se heurter aux nombreux agents que M. Costaud avait fait venir de Paris. La ficelle était enchantée de l'expédition. Tout s'était admirablement passé. Seul, chéri Bibi montrait quelque mélancolie en songeant que sa tâche n'était pas encore terminée et qu'après avoir pris le testament, il lui restait encore à tuer le testateur.
« Oh, le bandit !» disait la ficelle.
« Il ne se doute pas de ce qu'il attend. Il va avoir un joli réveil tout à l'heure dans son dodo. Car il doit dormir tranquille, le misérable, persuadé qu'il est à l'abri de tout, avec son testament qui nous liait bras et jambes.
« Oui, » gronda chéri Bibi, « il en était insolent.
Malgré le massacre de ses hommes, quelques heures après l'assassinat de cette pauvre comtesse, si tu l'avais vu, l'avais entendu comme moi tantôt, chez moi, oui, chez moi, il a osé se montrer, parler comme si rien d'extraordinaire ne s'était passé. »
« Quelle toupée !
Oh, il n'a honte ni peur de rien. Il est revenu du château du Toucher à la villa de la Falaise, accompagnant la marquise, mon épouse, et la rassurant comme un brave homme sur les suites de la nouvelle crise de la Douairière. À moi, il m'a conseillé le calme, devant Cécilie. J'avais envie de lui sauter à la gorge, et cette envie-là, il la voyait bien. » Il en souriait, ironiquement, se sachant toujours le plus fort. Depuis qu'il m'avait fait connaître, par la comtesse, qu'il y avait un testament. Et comme Cécilie, au moment où il prenait congé, le priait de faire ses amitiés à Madame Walter, il lui a répondu tranquillement, en me regardant, que Madame Walter était partie pour un petit voyage.
« Je crois, » exprima la ficelle, « que monsieur le marquis, tout à l'heure, aura du plaisir à lui faire goûter le trépas. »«
Oui, » dit chéri Bibi, « quoique je sois bien fatigué. Mais est-ce assez horrible ce qu'il a fait là ? L'a découpé en morceaux ! L'a découpé en morceaux ! Il a dû revenir au cabaret pour faire ce beau travail-là, car pour moi, il s'était enfui du restaurant du port en voyant que les affaires tournaient mal. » « Le canac n'a jamais été bien brave, » expliqua la ficelle. Puis il a songé qu'on allait trouver sa femme là-haut, reconnaître l'épouse du docteur Walter. Alors il est revenu sur ses pas et a découpé la malheureuse en morceaux. C'était plus facile à emporter et moins facile à reconnaître.
« La pauvre jeune femme, » soupira chéri Bibi. « Elle m'aimait bien. »
« Allons, allons !» « Ne vous énervez pas, monsieur le marquis, nos affaires se présentent le mieux du monde. La mort du canac sera encore mise sur le compte de l'abominable chéri Bibi.
tandis que les agents de M. Costaud, en continuant de veiller sur M. le marquis, là-haut, à la porte de la villa de la Falaise, lui créent un alibi qui le met à jamais à l'abri de tout soupçon, si tant est qu'il puisse en être, ce que je ne crois pas.
La ficelle, je suis fatiguée, fatiguée.
Asseyons-nous donc.
Il ne s'agit pas de cela, mon ami. Je veux dire que je suis fatiguée de tuer.
Monsieur le marquis, quand on ne peut pas faire autrement.
Et le bon La Ficelle poussa un soupir bien douloureux.
Et tout cela, monsieur le marquis, tout cela à cause de ce damné tatouage.
Ah, celui qui vous a tatoué n'a pas perdu son encre.
C'est ce que je t'ai toujours dit quand tu me parlais de me faire détatouer.
Ah, ce que j'ai essayé, La Ficelle.
Avant de me sauver, j'ai eu affaire à tous les détatoueurs du bagne.
Oui, ils n'ont rien pu faire. Ils avaient beau travailler avec leur aiguille.
Et puisqu'ils n'arrivaient pas à l'effacer, ce maudit tatouage, ils avaient beau essayer de le modifier, de le transformer en y ajoutant d'autres lettres, en l'étendant, en l'enguirlandant, je t'en fiche, les lettres de Chéri-Bibi réapparaissaient toujours au-dessous de tout le reste.
Mon tatoueur en était assez fier, il me l'avait assez dit.
Une encre indélébile, qui ne ressemblait à aucune autre et dont il avait seul le secret.
De l'encre faite avec le poison des plantes de la forêt vierge.
Mais lui, il aurait peut-être bien pu vous détatouer.
Non, il ne le pouvait pas. Je lui ai offert tout ce qu'il voulait. La liberté, une part des pépites de notre or dans la forêt, tout. Il ne pouvait pas, il ne pouvait pas. Le bon Dieu lui-même n'aurait pas pu, qu'il m'a dit.
Et tiens, pour que tu ne me reparles plus de ça, je vais t'avouer une chose. Je suis allée à Paris l'hiver dernier, tout seul, pendant 15 jours. Eh bien, c'était pour ça, pas pour autre chose. Pour essayer de me faire détatouer. J'avais entendu parler d'électricité, de courant à haute fréquence qui vous enlève ça de la peau comme si c'était de la peinture à l'eau. J'ai essayé. Oui, je me suis fait désarçonvaliser plusieurs fois.
Mais pour ça, monsieur le marquis, il faut se mettre tout nu. Le docteur a dû vous voir, celui qui vous désarçonvalisait, comme vous dites.
Mais non, on ne se met pas tout nu, on garde ses vêtements.
Aussi, tu penses si j'avais une émotion en retirant ma chemise à l'hôtel.
Ah là là, tous les autres tatouages, tous les enguirlandages disparaissaient au fur et à mesure.
Mais celui-là, celui de Chéri-Bibi, était plus beau que jamais.
C'était comme un sort. Fatalitas.
Sur ce dernier mot, qui depuis longtemps soulignait tous les malheurs, ils continuèrent leur route en silence. Ils passèrent à la nage le chenal de Dieppe, sans trop de difficultés, se retrouvèrent ruisselants sur la grève qui conduit à Puy, et bientôt entrèrent dans le village. Ils suivaient avec 1000 précautions le chemin creux qui conduisait au feuillage, quand un bruit de voix les fit se rejeter vivement dans un sentier près d'une petite chapelle. Ils s'arrêtèrent, dissimulés sous une haie, pour laisser passer 2 ombres qui venaient à eux d'un pas assez rapide. Et ils reconnurent la voix. C'était le Canac et c'était Reine. La vieille domestique de la marquise Douairière était venue chercher au milieu de la nuit le docteur Walter, car sa maîtresse allait plus mal. Quand ils se furent éloignés, Chéri-Bibi, impatienté de ce contretemps, ne put retenir un juron.
Encore une, dit-il en parlant de la vieille marquise, encore une qui ferait bien de mourir tout à fait, une fois pour toutes.
Monsieur le marquis, monsieur le marquis, supplia la ficelle,
que dites-vous là? C'est un sacrilège que de souhaiter la mort de sa mère. Cela pourrait nous porter malheur.
Tu as raison, la ficelle, touchons du bois.
La ficelle devait se rappeler toute sa vie le vœu malfaisant de son maître, et le regretter, hélas, avec des larmes sincères,
car il aimait bien chéri Bibi. « Et maintenant, qu'allons-nous faire ? » demanda celui-ci.
« Et si nous allions nous coucher ?»«
Ah, oh, ça, non !» protesta la ficelle. « Il faut en finir cette nuit, coûte que coûte. Nous allons nous rendre à nouveau sur la grève, au pied de la falaise, non loin de cet escalier qui monte directement au château, et par lequel le canac ne manquera point de redescendre. Il sera seul cette fois. Monsieur le marquis n'aura qu'un geste à faire. »
« Allons-y donc, mon pauvre ami, » obtempéra chéri Bibi. « Et Dieu veuille que le misérable ne se fasse pas trop attendre, car je gèle dans ces abominables effets mouillés, et je suis à bout de tout. »
Ils avaient repris, pour la besogne de cette nuit-là, les haillons de la veille. Ils étaient faits comme de vrais vagabonds, et ils grelottaient. Sur la plage, derrière une cabine, ils s'assirent, et attendirent le retour du canac. Il y avait des lumières tout là-haut, aux fenêtres du château.
« Ah, le bandit se fait attendre !» soupirait chéri Bibi.
« Quelle misère de me trouver, moi, le marquis du Toucher, par cette triste nuit, à une heure pareille, dans cet horrible accoutrement, sur cette grève déserte, et prêt à rejouer du couteau comme au plus mauvais jour de mon histoire. La ficelle, je te l'avouerai, je suis véritablement à la fin de mon courage. Je n'en puis plus. Il me semble que j'ai été dégradée et qu'il va me falloir recommencer toute ma vie, tous mes travaux, pour reconquérir cette place que j'avais eu tant de mal à obtenir. Me revoilà comme un pauvre soldat du crime, comme un voyou sans feu, ni lieu, ni Dieu. Tout cela, vois-tu, n'est plus de mon âge. C'est lamentable. Et ce n'est pas juste. »
La voix de chéri Bibi disant ces choses était devenue si triste que la ficelle en fut apitoyée. Et c'est les larmes aux yeux qu'il répéta « Encore un petit effort, monsieur le marquis, et nous serons au bout de nos peines. Un tout petit effort de rien du tout. »
« Oui, oui, encore tué. Tu appelles ça un petit effort de rien du tout. Je n'ai fait que ça toute ma vie. Ça finit par me lasser à la longue. Décidément, la fatalité ne pardonne pas. Je continue à vivre dans une mare de sang. Il n'y a pas d'homme plus malheureux que moi sur la terre quand j'y pense. Si Cécilie ne m'aimait pas autant, et si je n'avais pas mon petit enfant, je me ferais sauter le caisson, bien sûr. Monsieur le marquis, monsieur le marquis. Voyons, la ficelle, sois juste. Connais-tu une destinée pareille ? Tiens, il y a eu des hommes à carnage forcé sur la terre et avec lesquels on a fait des pièces, des tragédies, des drames pour célébrer leur misère. Ils ne sont rien de rien à côté de moi. J'en ai vu jouer de ces pièces. C'est encore le sort qui me conduit toujours à des pièces comme ça. La dernière fois que je suis allée à Paris, tiens, justement pour me faire d'arçon valisé, j'ai vu jouer Hamlet. Eh bien, Hamlet, c'est atroce. Ils meurent tous là-dedans. Noyés, égorgés, étranglés, poignardés, passés au fil de l'épée. Mais ce n'est rien à côté de ce qui s'est passé, de ce qui se passe dans ma famille. Et puis aussi, l'an dernier, avec Cécilie, j'ai vu Mounet Sully dans Œdipe roi. Celui-là, il est encore plus malheureux qu'Hamlet. La fatalité n'y va pas de main morte avec lui. Il a tué son père sans le connaître. Il a épousé sa mère sans le savoir. Il est le frère de ses enfants. Il s'arrache les yeux et il devient aveugle naturellement. Et tout cela, cependant, ça n'est pas de sa faute. C'est la fatalitas qu'il a voulu. Comme pour moi. Je suis un type dans le genre d'Œdipe, moi. Quand j'ai vu jouer ça, j'en étais malade. J'avais envie d'interrompre la représentation, de bondir sur la scène, d'arrêter ce Mounet Sully et de crier « Œdipe n'est pas celui qui joue la comédie. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Moi qui ai tué mon beau-père, fait tuer le mari de ma femme. Moi qui suis l'assassin du père de mes enfants. Moi enfin qui me suis tué moi-même pour vivre parmi les hommes sous un visage qui ne m'appartient pas. » Je suis sorti écumant.
sans m'occuper de Cécilie qui courait derrière moi. On me prenait pour un fou. Fatalitas. Œdipe est plus malheureux qu'Hamlet, mais moins malheureux que moi. »
Et le pauvre chéri-bibi leva un poing au ciel pour le maudire une fois de plus, en comparant ses malheurs à ceux des fils de Laïus. La ficelle n'osait plus rien dire, le voyant si accablé. Cependant, il était de son devoir de ne point laisser chéri-bibi en un état de prostration pareil, dans un moment où il allait avoir besoin de toutes ses forces pour assassiner le docteur Walter.
« Monsieur le marquis, fit-il entendre timidement, quand je considère la nature et le caractère des personnes qui sont mortes de votre main, je ne trouve pas qu'il y ait lieu de se désoler à ce point, et vous accusez bien à tort le ciel qui a su si justement distribuer vos coups. Prenons les choses par le commencement. Puisque le canac ne vient pas encore et qu'il vous laisse le temps de voir clair en vous-même avant de lui infliger un châtiment qu'il a mérité mieux que tout autre. Voici d'abord le père Bourrelier, qui avait abusé de la vertu de mademoiselle votre sœur, oubliant tout esprit de vengeance, ce qui est très chrétien. Vous vous disposiez à le sauver dans l'instant qu'il allait être précipité du haut de la falaise par un misérable coiffé d'un chapeau gris. Seulement, au lieu de frapper le misérable au chapeau gris, c'est dans le dos de monsieur Bourrelier que votre couteau est entré jusqu'au manche, par inadvertance. Allez-vous le plaindre? Non, car monsieur Bourrelier avait mérité cette fin tragique, et le ciel veillait à ce qu'il l'a subi. Pour moi, je vois le bras de la Providence dans tout ce qui vous est arrivé par la suite. Celle-ci avait certainement à châtier, de par le monde, une certaine quantité d'autres personnages aussi peu recommandables que le père Bourrelier. Et ce n'est pas pour une autre raison qu'elle vous a fait injustement condamner et poursuivre pour des crimes que vous n'aviez pas commis, à seule fin que vous deveniez, par votre irritation et les difficultés de votre exceptionnelle existence, l'aveugle instrument dont elle avait besoin. Songez que vous n'avez jamais tué pour le plaisir, mais acculé à la nécessité de vous défendre. Sans doute était-il écrit que ceux que vous frappiez devaient succomber pour la punition de leurs péchés. Sans vous, le premier mari de Madame Cécilie continuerait de torturer cette divine créature. Aussi vous n'allez point regretter le trépas du bourreau, car jamais la victime n'aurait été ici-bas récompensée de ses vertus si vous n'aviez pris la place d'un homme qui ne la méritait point. D'autre part, s'il n'avait pas été écrit que Petit Bon Dieu, Va-nu-pied, Le Rouquin et Boule de Gomme dussent trouver dans ce pays le terme d'une détestable carrière, croyez-vous que la fatalité, comme vous dites, ce serait donner la peine de les y amener pour qu'ils périssent tous les quatre sous vos coups? Enfin, elle sait bien ce qu'elle fait, la fatalité, quand elle se prépare à jeter dans vos bras le canac désarmé. Il n'aura pas tardé celui-là à expier le crime d'avoir assassiné une pauvre femme dont on commence à retrouver les morceaux un peu partout. « Tes paroles me font du bien, ami la ficelle. » avoua chéri Bibi. Cependant, je ne puis me retrouver à cet endroit du rivage sans me reporter, par la pensée, à cette nuit néfaste où, assis à l'endroit même que j'occupe aujourd'hui, je vis apparaître, le surlendemain de la mort du père Bourrelier, sur l'escalier de la falaise conduisant au château du Touchet, l'homme au chapeau gris. Celui-là, plus que tout autre, aurait mérité de tomber sous mes coups. Et cependant, il m'a toujours fui. Après s'être attaqué au père Bourrelier l'avant-veille et lui avoir volé son portefeuille, il se disposait à aller assassiner le marquis du Touchet. Le père, un brave homme qui n'avait fait de mal à personne, lui. Ah, je me verrai toujours bondissant sur les traces de ce coquin et arrivant trop tard. Hélas, pour sauver le marquis, mais assez tôt pour être arrêté comme étant l'assassin. Et tu trouves cela juste, qu'après tant d'années il ne soit pas châtié, qu'on continue d'ignorer son crime,
et que le nom de Chéri Bibi ne cesse de servir d'épouvantail aux petits-enfants.
« Et aux grandes personnes ?» crut devoir corriger la ficelle.
« Mais ne vous impatientez pas, mon maître. Tout arrive en son temps, et je suis persuadé que ce vilain homme au chapeau gris aura son tour, tout comme un autre. Ne m'avez-vous pas fait entendre que Rennes en sait plus long que nous sur ce chapeau gris-là ?»«
Oui, mais après avoir fait quelques confidences à sœur Sainte-Marie des Anges, elle ne veut rien dire. »
Et il n'y a pas de raison pour qu'elle parle maintenant, après s'être tue si longtemps.
Pourquoi épargnerait-elle l'homme au chapeau gris?
J'ai idée, vois-tu, qu'il doit être de notre monde. Elle redoute certainement le scandale.
Elle le connaît. Elle a dû voir son visage en plein, tandis que moi, je n'ai aperçu l'homme que de dos. D'abord sur la falaise, ensuite sur l'escalier. Tu vois, à cet endroit éclairé par la lune. »
Ce disant, Chéri Bibi montrait du doigt un coin de la falaise. Et brusquement, il se leva, en tremblant si fort et avec une telle agitation, que la ficelle suivit son mouvement et lui demanda, anxieux, ce qu'il avait.
« Tu ne vois pas ? Tu ne vois pas ? Là, là, sur la falaise, comme autrefois !»
La ficelle finit par découvrir la cause de l'extrême émotion de Chéri Bibi. Tout le long du roc, suivant un chemin si à pic qu'il paraissait tout à fait impraticable à un être humain, une ombre se glissait et arrivait ainsi à un des paliers de l'étroit escalier conduisant au château du Touchet. Et tout à coup, l'ombre se trouvait en pleine lumière lunaire et Chéri Bibi s'écriait
« L'homme au chapeau gris !»
Oui, oui, c'est lui. Ce sont ses gestes, c'est son attitude, sa taille. Enfin, il était tout à fait comme ça, et il était inquiet comme ça. » Ce disant, Chéri Bibi était prêt à s'élancer, et la ficelle avait grand-peine à le retenir.
« Lâche-moi donc, je te dis que c'est lui. Il a suivi le même chemin. »
Et Chéri Bibi bouscula brutalement la ficelle. Dans le même moment, l'homme là-haut se retourna, sans doute pour regarder si la plage était bien déserte et s'il devait craindre d'être aperçu d'en bas. Les deux hommes, dissimulés derrière la cabine, poussèrent la même exclamation.
« Bon mari !»
Chéri Bibi s'était jeté à quatre pattes et s'avançait déjà, la gueule en avant, comme un loup. La ficelle s'était glissée derrière lui jusqu'au pied de la falaise.
« Laisse-moi faire !» disait Chéri Bibi. « Ah, j'aurais dû m'en douter. Ne crains rien, son affaire est bonne à celui-là. »« Mais qu'est-ce qui le pousse au château ?»«
Cécile y couche ce soir au château, près de la marquise. Le bandit doit avoir préparé un coup.
Reste ici, surtout ne bouge que si je t'appelle. »
Et comme Pont-Mari s'était décidé à gravir rapidement les derniers degrés de l'escalier, Chéri Bibi, profitant d'un nuage qui masquait la lune, s'élança. Quand la lune reparut, il était en haut de l'escalier, mais Pont-Mari avait disparu comme par enchantement. Peut-être avait-il entendu qu'il était poursuivi, et s'était-il rejeté sur la falaise. Peut-être avait-il pénétré dans le château par la petite porte donnant sur les jardins, qui était entr'ouverte, toujours comme autrefois. Le docteur Walter et Rennes avaient dû passer par là, et dans leur hâte, n'avait point refermé la porte. Chéri Bibi la poussa et entra. Il regarda autour de lui, personne. Ah, combien cette expédition nocturne, qui n'était point dans son programme, remuait en lui de souvenirs. Il ne s'y attarda point, cependant, tout à l'activité de ses recherches. Il parcourut le jardin avec mille précautions. Pont-Mari n'était pas là. Chéri Bibi pensa que c'était de sa faute, qu'il avait fait du bruit, qu'il s'était démasqué trop tôt, et ce raisonnement était des plus plausibles. Il s'assit sur un banc, dans les ténèbres d'un bosquet, et en silence, continua de surveiller les choses. Pont-Mari n'avait certainement pas eu le temps de pénétrer dans l'intérieur du château, dont les portes étaient fermées. Il y avait des lumières au premier, dans l'aile habitée par la marquise. Derrière les fenêtres, Chéri Bibi voyait passer Cécilie,
et Reine, très affairée. Un troisième personnage vint les rejoindre, et il y eut un bref conciliabule derrière les rideaux. Ce troisième personnage était le docteur Walter, qui devait faire ses dernières recommandations. Chéri Bibi était tellement préoccupé par la découverte qu'il venait de faire, et il avait le cœur si plein de rage contre ce Pont-Marie, dans lequel il retrouvait l'être néfaste qu'il avait cherché vainement autrefois, qu'il en oubliait que cette nuit-là, il devait tuer le Canac. Ce furent les événements qui se chargèrent de le lui rappeler en lui offrant la mort du Canac au bout des doigts. Une lumière se montra à la tourelle de l'escalier qui faisait communiquer le premier étage du château et le rez-de-chaussée. Chéri Bibi vit distinctement Reine qui descendait, précédant le docteur Walter en l'éclairant. Bientôt, ils furent tous deux dans le grand salon où avait été assassiné jadis le vieux marquis du Touchet. Reine et le docteur s'arrêtèrent un instant derrière la porte vitrée pour causer. Puis Reine tira le verrou de la porte et l'ouvrit. « Voulez-vous que je vous accompagne, docteur ? » demanda-t-elle. « La petite porte du jardin est ouverte. » « Non, non, remontez tout de suite auprès de votre maîtresse et faites bien tout ce que j'ai dit. « Ah, avez-vous du papier et de l'encre ? Je vais vous donner tout de suite l'ordonnance pour demain matin. »« Voilà, docteur. » Les voix sonnaient claires et nettes dans la nuit silencieuse. Elle le conduisit à une table où le docteur trouva ce qu'il lui fallait pour écrire. Il s'assit, tandis que Reine, appelée par Cécilie, laissait sa bougie au salon et remontait au plus vite, en disant qu'elle allait redescendre tout à l'heure refermer la porte, et que le docteur n'avait qu'à laisser l'ordonnance sur la table avant de partir. Le Canac, la tête penchée sur la table, car il était un peu myope, écrivait. Il tournait le dos à la porte entrouverte. Chéri Bibi n'avait qu'à entrer. Jamais il n'aurait une si belle occasion. Il pouvait tuer le Canac sur son ordonnance. Il tira son couteau et entra. À pas feutrés, il se dirigea vers ce dos qui s'offrait à lui et il allait bondir, l'arme haute, quand un fâcheux craquement du parquet fit se retourner le Canac avec une rapidité qui prouvait que ce singulier docteur devait toujours être sur ses gardes. Si bien sur ses gardes que Chéri Bibi, dans son élan, vint se heurter le front sur un revolver, ce qui eut pour résultat de retarder l'heure d'un assassinat qu'il avait cru déjà accompli. Une pareille fausse manœuvre n'alla point sans arracher un soupir de douleur à notre héros, ni sans déclencher le rictus macabre du docteur. « Sais-tu bien, fit le Canac, que je pourrais te tuer comme un moineau ? Tu n'as aucun intérêt à me tuer ? Répliqua le faux marquis du Touchet sur un ton d'une grande lassitude. « Aussi, je ne te crains pas. »« Moi non plus, » exprima avec une ironie suprême le Canac. « Tu sais que j'ai pris mes précautions et que ma mort serait le signal de ta ruine et de la fin du marquis du Touchet, et sans doute en même temps de celle de Chéri Bibi. Pourquoi venais-tu avec ton couteau et dans cet accoutrement ? « Tu n'aurais pas eu la bêtise de me tuer, dis. Tu voulais me faire peur ?»« Oui, car je veux absolument avoir avec toi une conversation. Ne fais pas le malin. C'est moi qui ai gagné la première manche, pas plus tard qu'hier, et te voilà tout seul contre moi. »« Avec ton secret. Combien veux-tu ? » ?»« Je veux d'abord que tu lâches ton couteau. Je rentrerai mon revolver. Puisque nos armes sont inutiles, et que nous ne pouvons nous tuer, laissons ces accessoires et causons, les manettes. Comme tu voudras, obtempéra Chéri Bibi qui mit son couteau dans sa poche. Désarmés, ils se considérèrent fixement pendant quelques instants en silence. Ils se mesuraient, jaugeaient d'un coup d'œil ce qu'ils pouvaient bien valoir dans le moment l'un contre l'autre. Chéri Bibi eut un brusque mouvement de recul, car on avait entendu des pas au-dessus d'eux. « Ne crains rien, » fit le Canac en le suivant. « Reine ne descendra pas tout de suite. Je lui ai donné de l'ouvrage. Oui,
Elle et ta femme ne peuvent quitter la marquise, ta mère, en ce moment. Nous pouvons causer. » Et il reprit en ricanant.
« Ta mère, ta femme. Ah, bandit, ne parle pas de ma femme.
Comme tu voudras, de quoi parlerons-nous donc ? Ah oui, tu me demandais mon prix.
Sais-tu bien que tu es admirable ?
Pourquoi ? Interrogea naïvement chérie Bibi, toujours en reculant, comme si l'air d'autorité et le regard flambant du canaque lui en imposaient sérieusement.
Pourquoi ?
Mais, mon cher, parce qu'il n'est pas permis d'être aussi bête que toi.
Comment ?
Tu t'étais imaginé que j'avais fait de toi le marquis du Toucher pour 1 million ? Et maintenant tu me demandes mon prix. Tu crois sans doute pouvoir te débarrasser de moi encore avec 1 nouveau million ?
Non, répliqua chérie Bibi.
Combien ?
Je vais te dire, j'avais pensé à te prendre tout,
ou à peu près. C'est dans cette intention que j'avais amené mon état-major.
Ton état-major n'existe plus.
Combien ?
Ce disant, chérie Bibi insensiblement reculait toujours, et le canaque le suivait sans crainte, car ainsi chérie Bibi était acculée dans un coin du mur, ne pouvant plus faire un pas sous l'œil de son ennemi qui surveillait ses moindres gestes. Du reste, le canaque devait être rassuré sur les intentions de chérie Bibi, qui avait tranquillement croisé les mains derrière son dos. Il ne s'agissait plus entre ces deux hommes que de diplomatie à propos d'une question financière.
« Oui, continuait railleur le docteur Walter. Oui, j'avais rêvé de te dépouiller, de te prendre par la force, et au besoin, par la torture, tout ton bien. C'est un plan qui aurait pu réussir si tu n'avais été mis sur tes gardes par la comtesse. »
« La pauvre femme !» fit chérie Bibi.
Dieu et son âme, fit le canaque. Je crois bien qu'elle m'a rendu un gros service, sans s'en douter. D'abord, grâce à elle, tu m'as débarrassé d'un quatuor qui commençait à m'embarrasser. Ensuite, l'événement m'a fait réfléchir. Qu'est-ce que j'aurais fait de tous tes millions ?
Vos millions, monsieur le marquis, je vous les laisse.
Ah ? Oui, pour que vous les fassiez fructifier. Vous serez, comme qui dirait, mon fermier. Cela vous va-t-il ?
Parle toujours.
Tu fais la grimace ? Tu ne comprendras donc jamais que tu es ma chose, mon bien, ma terre, et que je t'ai créé dans ta vie nouvelle, uniquement pour que tu travailles pour moi. Sois raisonnable, je le serai. Je te laisserai de quoi vivre. Le reste, dont je te fixerai le chiffre moi-même, tu me l'apporteras aux échéances ordinaires. Et si je suis content de toi, je te ferai un petit cadeau au terme de la Saint-Michel. En principe, cela te va-t-il ?
Tu es bien gentil pour moi, répondit avec une grande froideur chérie Bibi. Mais j'aime mieux te prévenir tout de suite. Cela ne me va pas.
Je le regrette, mon garçon, car je n'ai pas autre chose à te dire.
Tu te crois bien fort, le canaque.
Assez pour être sûr que tu réfléchiras et que nous deviendrons les meilleurs amis du monde.
Non, vois-tu, le canaque, il y en a un de trop ici-bas, de nous deux.
Je ne trouve pas. Nous nous complétons si bien.
Le canaque, tu ne sais pas que j'ai juré à la comtesse de la venger.
Deux enfantillages. Si tu me touches, je connais quelqu'un qui ira trouver le procureur de la République avec mon testament.
Non, il n'ira pas.
Ah bah ! Maître Régime n'ira pas trouver le procureur avec le testament.
En entendant prononcer ce nom, le canaque ne put s'empêcher de marquer quelque émoi.
D'abord, tu ne sais pas si c'est Maître Régime qui a mon testament.
Si, il me l'a dit. Et il n'ira pas le porter parce qu'il ne l'a plus.
Tu dis ?
Fit l'autre, soudain très pâle.
Je dis que c'est moi qui l'ai, ton testament.
Chérie Bibi n'avait pas plus tôt prononcé ces mots que le canaque, poussant une sourde exclamation et redoutant le pire pour sa propre vie,
bien que Chéri Bibi n'eût point bougé les mains de derrière son dos et qu'il le sût désarmé. Le Kanak fouilla dans sa poche pour y prendre son revolver. Mais il n'en eut pas le temps, car d'un geste foudroyant, Chéri Bibi avait arraché de son dos le couteau fatal qui se trouvait retenu par des fils de soie au bas du portrait du vieux marquis du Touchet, mort assassiné, et le plongeait dans la poitrine du Kanak qui tombait en râlant. « Un coup pour moi !» grondait Chéri Bibi. Et le Kanak finit de râler, car le second coup lui tranchait la gorge. « Et un coup pour la comtesse !» Chéri Bibi regarda une seconde le Kanak mort. Puis il s'enfuit comme un fou, car ses morts, maintenant, lui faisaient peur.